Europe 1 Culture Média.
9h, 11h.
Philippe Vandel.
Merci de nous retrouver. Si vous nous rejoignez seulement, nous sommes ensemble jusqu'à 11h pour la partie culture de l'émission avec Thierry Lhermitte. Il est à l'affiche de la pièce Fleur de Soleil, une pièce avec en fond cette question: peut-on pardonner l'impardonnable? Hélène Manarino va nous dresser son portrait inattendu dans quelques instants. Elle est déjà dans ce studio. Et puis dans les indispensables, de la musique avec un inédit de David Bowie et une sélection des BD incontournables du moment. Je vous ai cité, bonjour Hélène Manarino.
Bonjour Philippe Vandel, je vous cite en retour.
C'est votre journal de la culture, oui, moi je suis là depuis 9h. Journal qui démarre par un énième épisode dans l'affaire Matzneff.
Un nouvel éditeur a annoncé l'arrêt de la commercialisation de ses livres. Alors après Gallimard et la Table Ronde, c'est au tour des éditions Léo Cher. Ils arrêtent donc les Carnets Noirs 2007-2008 et l'ouvrage très controversé, Les Moins de 16 ans. Gabriel Matzneff, qui fait l'objet d'une enquête pour viol sur mineur suite au témoignage de Vanessa Springora dans son livre Le Consentement, est aussi attaqué en justice pour apologie de crime par une association de prévention contre la pédophilie qui s'appelle L'Ange Bleu. Il est cité à comparaître à la chambre correctionnelle du tribunal de Paris. Une première audience de procédure doit avoir lieu le 12 février, selon une source judiciaire et l'avocat de l'association, en vue d'un éventuel procès.
Et on continue ce journal avec la cérémonie des Oscars.
Et pour la deuxième année consécutive, Philippe, il n'y aura pas de présentateur attitré. Et oui, souvenez-vous, l'année dernière, quelques semaines seulement avant la cérémonie, le comédien Kevin Hart avait finalement dû renoncer à la présentation de la cérémonie, une première depuis 30 ans, une décision qui faisait suite à la réapparition de ses tweets homophobes. Et cette année, pour la 92e édition qui se tiendra le 9 février à Los Angeles, ce sera donc aussi sans présentateur, une décision qui fait suite aux excellents retours après la cérémonie de l'an dernier. Alors pour l'ouverture, le groupe Queen avait, souvenez-vous, marqué les esprits en offrant une magnifique prestation pour fêter le succès du long métrage Bohemian Rhapsody. Alors, que va-t-il se passer cette année? Les nominations pour les Oscars seront annoncées lundi prochain.
Et au César français, il y aura une personne qui va présenter, ce sera rien moins que Florence Foresti.
Exactement.
On continue avec une nouvelle qui devrait ravir de nombreux fans.
Et pour tout vous dire, c'est une information que Philippe Vandel m'a envoyée très tard dans la nuit.
Ouais. On va dire ce que c'est. Je rentrais du match PSG Saint-Etienne. Ah. Et qu'est-ce que je vois? Un tweet de Liam Gallagher.
Mais oui.
Alors, groupe Oasis.
C'est une rumeur qui revient souvent et j'espère ne pas faire de démenti. C'est peut-être la bonne cette fois-ci. Liam Gallagher a annoncé que le célèbre groupe Oasis pourrait faire leur grand comeback. Et oui, c'est dans un tweet que la rockstar a laissé entendre que le groupe pourrait revenir pour 2022. C'est son frère qui l'aurait appelé pour lui demander. C'est quand même un événement quand on sait quand même qu'il ne se parle plus depuis l'été 2009. Alors Liam Gallagher a également annoncé qu'il prévoyait d'arrêter sa carrière solo après son prochain album pour se consacrer donc peut-être à Oasis.
Voilà, parce que la dernière fois, il s'était quand même tapé sur la gueule dans un festival, je crois que c'était Rock en Seine. Et là, il a dit « Mon frère m'a parlé !» Et c'est ça le tweet.
Dans la haine, il y a de l'amour.
Voilà. C'est un autre débat. Tout autre sujet, côté musique, Serge Lama qui dit adieu à la province.
Et d'aventure en aventure, de train en train, de port en port, jamais encore, je te le jure, je n'ai pu oublier ton corps.
Le chanteur, âgé de 76 ans, a posté un long message sur Facebook en annonçant donc une tournée d'adieu à toutes les villes qu'il a pu visiter en tournée. Entre autres, il a écrit « Adieu Bordeaux, adieu Toulouse, Lille, Lyon, Rennes, Marseille et sa région, Nantes, Strasbourg et j'en oublie, c'est une triste litanie pour moi aussi. Tant de souvenirs me rattachent à vos belles régions. Que de soirées mémorables partagées dans la joie d'une amitié contagieuse, un bonheur d'être ensemble, une convivialité, car c'est vous qui avez fait ce que je suis, c'est vous qui, avant la capitale, m'avez reconnu et porté à bout de joie. Des dates sont prévues pour la fin de l'année 2020, une tournée tout simplement appelée Adieu, chère province. Voilà, il évoque ses problèmes de santé, il se dit fatigué, affaibli. Serge Lama qui déclare également « Si par la suite mon état physique me permet encore de faire de la scène, il vous faudra venir me voir à Paris, mais laissons parler le destin, laissons parler le festin. »
Netflix qui laisse la place aux réalisatrices.
Petite virgule Netflix.
on l'a bien laissé vivre.
Ouais.
J'avais envie de marquer en silence. Ouais. C'est un choix dans mon journal. Voilà. Selon une étude américaine que nous rapportent nos confrères de Combini, sur 53 des films américains originaux produits l'an passé par la plateforme américaine, 20% étaient réalisés par des femmes. Alors, c'est ce que l'étude précise. Alors, ça ne prend pas en compte les documentaires et les films originaux étrangers au territoire américain. À titre de comparaison, la Warner et Universal ont fait le plus appel à des réalisatrices sur la dernière décennie, à savoir 240 et 220 respectivement, alors que Sony ou Paramount n'en ont embauché toujours que 11 et 3. Alors la parité pour Netflix, oui. En revanche, l'étude pointe du doigt le manque de diversité. 3 réalisatrices sont issues des minorités.
3 réalisatrices seulement. On continue avec une bonne nouvelle. Les œuvres de 14 musées parisiens disponibles gratuitement sur Internet.
À l'initiative de Paris Musée qui regroupe donc 14 musées et sites de la ville de Paris. Le Petit Palais, Carnavalet, Musée d'Art Moderne, Musée Cognac G entre autres. Alors cela a débuté hier. Plus de 100 000 reproductions numériques en haute définition. Des œuvres présentes dans ces établissements sont mises à disposition gratuitement et sans restriction sur Internet. Cette opération vise, je cite, à favoriser l'augmentation de la visibilité des œuvres et la connaissance des collections en France et à l'étranger. Ce sont des musées qui souffrent souvent de la notoriété du Grand Palais, du Musée d'Orsay, du Louvre. Alors Paris Musée ne s'arrête pas là. Il y aura de plus en plus d'images au fur et à mesure. Donc vous allez sur le site des collections de Paris Musée et vous effectuez votre recherche par mots-clés. Toutes les œuvres correspondantes et éléments apparaissent et vous pouvez ensuite télécharger l'image choisie.
Et puis pour terminer, Hélène, vous avez une petite annonce à nous faire.
Alors oui, j'avais envie de vous le dire ce matin parce que c'est une chanson qui nous a beaucoup accompagnés dans Culture Média, que vous avez réclamé, voire chanté au bureau, Philippe Vandel.
Ah, j'en peux plus.
Elle a battu tous les records. Et juste après les fêtes, elle est sortie du top 10 Billboard alors qu'elle était numéro 1, cette chanson. Alors voilà, il est temps de dire adieu à All I Want For Christmas de Mariah Carey pour un an. Et finalement, ce sont toutes les chansons de Noël hein, présentes dans le top 10 qui sont sorties du classement cette semaine. Et bien oui, Noël, c'est fini. Place à la musique de l'été.
Merci beaucoup Hélène, à tout à l'heure.
9h, 11h, Europe 1, Culture Média, Philippe Vandel.
Et dans Culture Média ce matin, Philippe, on est très heureux d'accueillir Thierry Lhermitte.
Comédien, est-ce qu'il est besoin de le présenter? Juste donner un chiffre. 5 millions, c'était le nombre de Français devant la 20e ou 30e ou 40e rediff des bronzés fonds du ski pendant les vacances de février. Je l'ai dit en préambule d'abord. Non, bonjour Thierry Lhermitte, je ne vais même pas saluer.
Bonjour.
Je l'ai dit en préambule, vous montez sur scène pour un exercice où l'on ne vous attendait pas, seul en scène. Ça sera du 16 janvier au 29 mars pour 40 représentations exceptionnelle au Théâtre Antoine. Ça s'appelle Fleur de Soleil. C'est pas tout à fait une pièce. C'est écrit par Simon Wiesenthal. On le connaît comme chasseur de nazis. Qui était d'abord Simon Wiesenthal, pour qui ne le connaîtrait pas, et en quoi consiste ce spectacle? D'abord, qui était-il?
Simon Wiesenthal, il est né en Ukraine. Il était polonais. Il était architecte avant la guerre. Et puis, il était juif. Il a été déporté dans plusieurs camps de travail et de concentration. Il a survécu à la Shoah. Et il a créé le centre de documentation à Vienne. Il est autrichien après, et qui était chargé de rechercher les criminels de guerre nazis. Il a contribué à l'arrestation de plus de 1000 criminels de guerre nazis. Et il est mort en 2005, et durant sa vie, il a écrit 2 bouquins. Il a écrit « Les assassins sont parmi nous », qui a eu pas mal de succès dans les années 50, dans lequel il dénonçait le fait qu'il y avait la plupart des nazis criminels, étaient pas en action d'ailleurs, mais en fait, dans la vie civile.
On pouvait les croiser à la boulangerie.
Exactement. Et puis « Fleur de soleil ». Et Fleur de Soleil, c'est un bouquin extraordinaire que j'ai lu absolument par hasard. Une suggestion de Kindle. Okay. Donc, je prends l'extrait. L'extrait me sidère. Je prends le bouquin que je lis, que je fais lire et qui me bouleverse et qui me sidère. Je fais lire à Jean-Marc Dumontet, qui est producteur avec qui j'avais travaillé de théâtre. Et un an plus tard, il me dit « Tiens, j'ai fait faire une adaptation. » J'ai dit « Ah bon, pour qui ?» Il me dit « Bah, pour toi, si tu veux. » Ah. Et donc, il avait confié ça à Steve Suissa, qu'il avait fait adapter également, qui lui aussi, de son côté, voulait faire un spectacle avec ce bouquin. Et me voilà sur scène après beaucoup d'hésitations.
Alors, que raconte cette histoire? Je n'ai pas vu la pièce, évidemment, mais j'ai lu le texte de la pièce. Je dois avouer que c'est saisissant et sidérant. Ouais. Que raconte-t-il?
Alors, Simon Wiesenthal est déporté à ce moment-là à Lvov, en Pologne. Et puis, au milieu de la journée, une infirmière vient le chercher et l'amène dans une pièce où il y a un jeune nazi, un jeune SS de 21 ans, qui est en train de mourir. Il n'y en a plus pour plus pour longtemps, et il lui confesse un crime horrible qu'il a commis pendant la Shoah par balle en Ukraine. Et Wiesenthal se demande pourquoi il lui raconte tout ça, et à la fois il lui dit « je vous demande votre pardon pour pouvoir mourir en paix ». Et Wiesenthal est sidéré, le souffle coupé, et puis il s'en va sans rien dire.
Votre pardon, voilà, en tant que juif.
En tant que juif. Et donc il ne lui donne pas son pardon, et le fait de ne pas lui avoir donné son pardon l'interroge, l'obsède pendant toute sa vie. Donc voilà, il survit, il écrit son livre, et ensuite il envoie son bouquin à des dizaines de personnalités et de grandes figures morales de l'époque des années 60. Ça va du Dalai Lama à Simone Veil, à Mathieu Ricard, à Desmond Tutu, à Albert Speer, ouais, l'architecte du Reich, qui n'est pas une grande autorité morale, mais qui avait son mot à dire dessus. Enfin, à des tas de gens pour savoir qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce que vous auriez fait.
Ce qui est complètement fou, c'est qu'il le raconte, Simon Wiesenthal, c'est qu'il est en camp de concentration. Ouais. Il a avec lui des compagnons d'infortune. Ouais. Et à un moment donné, il se réveille au milieu de la nuit en criant, c'est très très dangereux, parce ouais, que s'il se fait choper, il fait un cauchemar, ouais, il ne rêve pas des cauchemars, des sévices non, subis par les Juifs, il fait un cauchemar parce qu'il repense à ce soldat nazi.
Ouais, c'est une question qui l'a obsédé. Voilà. Est-ce qu'il aurait dû pardonner à quelqu'un qui va mourir et qui confesse l'horreur de ce qu'il a fait.
Alors, c'est ce ouais, que vous racontez sur scène. Ouais. C'était pas écrit comme une pièce, mais c'est devenu une ouais, pièce. Et il y a des lettres, il y a des vidéos. Comment ça se passe? Qu'est-ce qu'on voit? C'est quoi le spectacle?
Et puis le son de certaines lettres qui sont absolument magnifiques. Voilà, il y a Roger Icor, Albert Speer, c'est celle qui commence. C'est dingue. Albert Speer, c'est l'architecte du Reich, ministre de l'armement. C'est un des rares qui a pas été condamné à mort. Il a été condamné à 20 ans de prison à Nuremberg. Et Simon Wiesenthal lui a envoyé son bouquin. Ils ont échangé. Simon Wiesenthal est allé le voir en prison. Et ils ont discuté de ça. Donc il y a une lettre de Simon Wiesenthal, et puis il y a la dernière lettre qui est d'un auteur romain.
Non mais dites quand même ce que dit Speer, parce que c'est assez frappant.
Speer, il dit, de mon vivant, ce que j'ai fait était inexcusable, impardonnable. Je ne pourrais pas me pardonner à moi-même, mais vous m'avez regardé avec des yeux qui ne regardaient pas une bête sauvage, mais un être humain, et ma peine, voilà, mon fardeau a été allégé par votre regard. Voilà.
On n'imagine pas ça. C'est pas facile d'enchaîner ouais, parce que je voulais juste te dire qu'on marque une pause, mais que vous restez avec nous, Thierry Lhermitte.
Ouais. C'est Thierry Lhermitte qui est notre invité et on va le découvrir autrement, cuisiné à la sauce Manarino, dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Et c'est l'heure, Philippe, du portrait inattendu d'Hélène Manarino.
Thierry Lhermitte, vous connaissez Hélène Manarino?
Non, pas du tout.
Mais je pense que vous allez lui pardonner. Hélène, c'est à vous.
Bonjour Thierry Lhermitte.
Bonjour Hélène.
Alors Thierry Lhermitte, vous savez, j'ai cette lourde tâche dans Culture Média de dévoiler des choses que l'on ne connaît pas encore des invités.
Ah, c'est vous.
Voilà, c'est moi, donc aujourd'hui c'est votre portrait. Alors pour tout ça, il faut réaliser une enquête très poussée. Et oui,
il est en train de boire, Philippe. Ouais.
Voilà, il faut expliquer, il était en train de boire. Et alors Thierry Lhermitte, vous êtes une personne extrêmement discrète.
Oui.
Et cette discrétion, eh bien, elle est respectée de la part de vos proches.
Ouais.
Vous avez failli ne pas connaître votre portrait inattendu, mais dans Culture Média, on ne lâche rien,
d'accord,
Thierry Lhermitte. Donc, j'ai des petites choses quand même sur vous. Qu'est-ce que vous nous cachez encore? Alors, doté d'une extrême générosité, le cadeau que vous préférez offrir, c'est finalement le rêve de tous, des livres sur les probabilités de mathématiques.
Il a un petit rire sadique.
Oui, Thierry Lhermitte, vous êtes un antello.
C'est cela, oui, oui.
Pourquoi ce cadeau?
Parce que c'est un bouquin qui m'a marqué, voilà. C'est un bouquin, je vous donnerai pas le nom de l'auteur parce qu'il a un nom vietnamien dont je n'arrive pas à me souvenir.
Ça voilà, raconte
sur,
quoi
ben les probabilités bayésiennes, voilà. C'est la probabilité conditionnelle qui est manifestement l'univers entier, les neurones, voilà, marchent avec cette forme de probabilité. Voilà.
C'est génial, ça me rappelle bien-aimé Tchebichev qui a fait un théorème sur la probabilité d'une probabilité.
Oui, c'est ça.
Tu sais que vous êtes chez les fous, là.
Hein. Ouais, ouais. T'es bien.
Ouais, je vais lui offrir. Hein.
Comment? Moi, j'adore.
Mais il se passe quelque chose, allez-y. Ouais. Vous êtes également passionné de littérature et d'histoire. voir. Vous êtes capable de lire presque en une seule fois des livres de 800 pages avec des références historiques très pointues. L'un des derniers livres que vous avez lu, c'est l'opération Barbarossa.
Ouais, Barbarossa, oui.
L'Allemagne qui attaque l'URSS.
Ouais.
C'est ça. Alors vous êtes aussi passionné d'équitation. Vous aimez passer votre temps à la sellerie Gaston Mercier que nous avons également appelé.
Ouais. Vous êtes fait jeter.
Non, il a été très gentil. Voilà. Alors d'ailleurs, quand vous êtes en tournée, vous allez visiter le matin un centre équestre. Et oui, vous êtes un vrai cavalier. Mais surtout, ce que vous préférez lorsque vous avez un moment de pause sur les tournages, c'est de vous retrouver évidemment avec vous-même dans un endroit très précis. Alors, pas de danse du club, pas de maillot de bain ni de collier de perles. En revanche, chaleur et lumière, parce que vous allez visiter des usines solaires.
Ah oui.
Et oui, Thierry Lhermitte.
Oui, oui, c'est vrai. J'ai visité une gigantesque centrale solaire au Maroc. J'étais en tournage à côté de Ouarzazate, pardon.
Ouais.
Et donc, c'est gigantesque. On dirait on est dans Spielberg. Hein.
Ouais.
C'est dingue. Parce qu'il y a les trois technologies, c'est-à-dire chauffage, la tour qui est chauffée par des miroirs et qui fait chauffer une solution saline.
Ouais.
Et puis les panneaux solaires. Et c'est sur des hectares.
Non, mais Thierry Lhermitte, vous ne lancez pas. Vous savez qu'il faut rendre l'antenne bientôt. Le gars, il est parti. Il s'arrête plus.
Ah, mais
vous ne vous arrêtez jamais, même quand vous travaillez finalement, lorsque vous travaillez au Pilat sur le texte Fleur de Soleil, vous n'oubliez pas vos tâches du quotidien, la vaisselle, les courses, mettre la table.
Ouais.
Bref, une vie d'artiste que vous avez, mais être dans la vie de tous les jours avant tout. Bosseur acharné, intellectuel, vous avez aussi un jeu de jambes qui est important de préciser parce que vous faites du foot. Voilà, ça vous détend entre deux séances de travail, toujours au Pilat. Et oui.
Ouais.
Dès que vous êtes arrivé, hop, une petite partie de foot.
Non, il m'oblige.
Mais il faut pas vous convaincre longtemps. Alors, amateur de grandes sensations, il y a ce souvenir aussi avec l'acteur Pierre Richard où il y a 30 ans, vous êtes parti faire du ski extrême. Et oui,
tous les
deux.
Ah, je connais pas ce morceau.
Vous non plus, Thierry Lhermitte.
Super idée de l'avoir passé là.
Une vie.
On s'y attendait pas.
Une vie riche, le challenge ne vous fait pas peur, très engagé. Vous êtes l'un des seuls artistes à demander à être invité dans une émission de télé pour ne pas évoquer vos actualités, mais une association de chercheurs. Mettre en avant les autres, l'homme. Alors vous avez déclaré « L'homme n'aura été qu'une parenthèse dans l'histoire de la vie ». Alors permettez-nous de ne pas refermer la vôtre.
Oh, bravo. Vous êtes reconnu.
Quand même,
là.
Une jolie chute à la fin.
Non, vous avez eu de la chance que j'avais essayé de convaincre ma femme de vous dire une grosse connerie.
Ouais.
Et je voulais lui dire que j'avais été plongé dans la Seine pour sauver une dame en chaise roulante qui avait roulé à l'intérieur et j'avais même réussi à ramener le fauteuil.
Il m'a raconté une histoire un jour. Est-ce qu'elle est vraie l'histoire que vous m'a racontée où vous présentez des gens dans des soirées du cinéma? Il m'a raconté une histoire vraiment géniale. Où vous dites à chacun que l'autre est sourd et les deux se mettent à brailler.
C'est
drôle. Ouais. Mais il fallait me raconter ça à moi, Philippe,
comment
pour mon portrait.
Ouais.
Mais bravo.
Ouais. Ça y est, je l'ai raconté. Comment? Vous êtes qui? Vous êtes Hélène Manarino. Allez,
bonjour.
On enchaîne.
Dans un instant, on découvrira nos indispensables du jour avec Mathieu Charrier, Angèle Châtelier et notre invité Thierry Lhermitte sur Europe 1.
Bon, ça va pas être possible. Hein. Enfin, je t'expliquerai.
Europe 1, Culture Média, Philippe Bondel.
Et c'est l'heure, Philippe, de nos indispensables du jour. Dans un instant, on va parler cinéma avec Mathieu Charrier, musique avec Angèle Châtelier, avec notre invité Thierry Lhermitte, qui est présent pour nous parler, lui, de la pièce Fleur de Soleil de Simon Wiesenthal, qu'il joue au Théâtre Antoine du 16 janvier au 29 mars.
Donc ça va bientôt commencer. C'est pas tout à fait une pièce. Plutôt, Simon Wiesenthal a écrit un livre qui est devenu une pièce par l'entremise de Dumontet, le producteur, et Steve Suissa, le metteur en scène, dans laquelle vous incluez des lettres ou des réponses de lettres. L'idée, c'était qu'on avait demandé pour qui il prendrait l'émission en route quand il était enfermé dans un camp de concentration parce que juif, un soldat nazi sur le point de mourir, lui a demandé de venir et lui a demandé de lui pardonner pour ce qu'il avait fait. Il avait tué des enfants dans un village en Ukraine. Comment vous avez choisi les pièces, les lettres? Parce qu'il y a plusieurs lettres.
Il y a plein de lettres suivant les éditions. Comme il a envoyé son livre à des dizaines et des dizaines de personnalités, il y a beaucoup de lettres. Et donc, suivant les éditions, par pays ou par date de parution, il y a différentes lettres. Donc, on a eu accès, enfin, Steve Suissa a eu accès au... Par le centre Simon Wiesenthal à l'ensemble de ses lettres, on a choisi celles qui étaient, qui nous paraissaient les plus intéressantes et qui amenaient des avis franchement très différents.
Ouais. Voilà. Alors c'est vraiment frappant parce que quand on lit une lettre, il y a certains veulent pardonner, d'autres ne veulent pas pardonner. Quand on lit une lettre, on se dit le type a raison. Et quand on lit une autre lettre qui donne exactement l'avis contraire, on pense qu'il a raison,
raison
également.
Ouais.
Et vous-même, c'est quoi votre opinion? Est-ce que vous auriez pardonné Thierry Lhermitte?
Moi, c'est Roger Hicor, il dit le pardon sans justice, c'est la force brute c'est la faiblesse qui se complaît en elle-même. Et puis la justice sans pardon, c'est une violence inhumaine. Donc le pardon à condition de justice. Et à condition de repentir, peut-être.
Donc le pardon,
peut-être.
Mais les procès.
Peut-être,
Nuremberg
oui,
mais, et
oui
procès.
Ça n'a rien à voir, ce sont deux domaines différents. Le pardon n'a pas de date de péremption. La justice, elle s'arrête à un moment. La justice convoque d'autres gens. Le pardon, c'est d'une personne à une autre personne. C'est vraiment des domaines très différents. Donc, à condition de justice, et peut-être. peut-être. Pardon.
Ça ne va pas être facile d'enchaîner, parce qu'on parlait de musique avec Angèle Châtelier.
Bonjour.
En même temps, c'est l'eau de notre émission et c'est l'eau de la vie. Hier, on entendait des inédits de Bob Dylan avec vous, aujourd'hui de David Bowie.
Et oui, parce que David Bowie est mort il y a 4 ans, presque jour pour jour, le 10 janvier 2016, 2 jours après la sortie de son ultime album Black Star. En 1970, David Bowie publie la chanson « The Man Who Sold the World » dans l'album du même nom. Une session acoustique de ce tube avait été diffusée une seule fois, le 8 janvier 1997, sur la BBC. Et depuis hier, elle est désormais disponible sur les plateformes de streaming. We passed upon the stair. We spoke of what's and where. Although I was not there. Said I was his friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. Alors, de nouveaux inédits vont pleuvoir petit à petit ces prochaines semaines avant de créer un album entier, Changes Now Bowie. 9 titres acoustiques enregistrés en 1996. À la fin du mois, les musiciens qui ont accompagné Bowie seront aussi sur scène pour la tournée A Bowie Celebration. Mac Garson, son pianiste légendaire, Jerry Leonard, son guitariste et d'autres. Ils seront à Paris le 26 janvier, à Toulouse le 27 et le lendemain à Bordeaux.
Et là, le guitariste, c'est Robert Fripp. Et puis, place aux découvertes maintenant, Angèle, puisque vous vouliez également nous parler d'une artiste, pardon, qui n'est pas inconnue, des amateurs de surf.
De surf. Musicalement, sous son seul nom, elle n'a sorti que 2 titres, mais Liane Keren a été 2 fois championne d'Europe de surf. Elle a aussi créé une fondation au Brésil pour orienter les enfants des favelas vers la pratique du surf. Pourtant, la musique a toujours accompagné sa vie. Elle a son premier groupe alors qu'elle est ado, mais à 14 ans, il a fallu faire un choix, forcément, se consacrer entièrement à la pratique du surf et délaisser la musique, faute de temps.
Je pense aux parents qui disent à ton fils, tu seras avocat ou banquier.
Voilà.
Mais là, c'est surf ou musique, c'est quand même assez cool comme alternative.
Exactement.
Franchement.
Alors à aujourd'hui 30 ans, Liane Keren a fait ses armes dans le surf et elle revient donc à ses premières amours, la musique.
Je ne sais pas si c'est parce que vous nous avez donné le contexte, mais moi j'entends l'ambiance surf, je la vois très bien sur la plage en train de se fumer un pétard avec la planche de surf sur le combi Volkswagen et Sally de Scooby-Doo.
Bah
oui, c'est ça les clichés justement. C'est les clichés du surf, bien sûr.
Dans le clip, elle est effectivement sur la plage. Ouais. Alors elle débarquait cette semaine dans la capitale avec une grosse valise, la guitare accrochée derrière à défaut de la planche. Et la pratique du surf lui a donné quelques qualités pour survivre à la vie d'artiste. On l'écoute.
C'est assez bon pour tout ce qui est... d'être instinctif et lâcher prise et s'adapter, parce que la mer, avec l'expérience, on apprend un peu à deviner ce qui peut se passer, mais tout est tout le temps en mouvement, donc c'est C'est assez dur même pour progresser parce qu'on a tout le temps, la vague est tout le temps différente. Mais ça apprend pas mal de choses sur le savoir s'adapter. Et je pense qu'en musique, c'est pas mal aussi. Il y a peut-être une rythmique ou d'être à l'écoute de ce qui se passe ou pour apprendre à jouer de la musique au moins. We fell in love like a light year away.
We fell in love in a matter of days. Alors, Liane Curren, vous l'entendez, elle est française.
Mais oui, c'est rare, une française qui fait une fondation au Brésil pour aider les enfants des favelas, c'est pas courant.
Donc, surfeuse et chanteuse, et elle sortira son premier EP début février.
Merci beaucoup, Angèle. Ça vous plaît, Thierry Lhermitte ?
Oui, très bon.
Ça vous donne envie de vous remettre au surf ?
Oui, il faut que j'y pense, absolument.
Le gars qui est déjà au foot, vous écoutez quoi comme musique en ce moment ? Tentez que vous écoutiez de la musique ?
De musique classique, souvent, en ce moment, oui.
D'accord.
Ouais.
Mais vous n'êtes pas déçu parce que vous venez d'entendre ?
Pas du tout. C'était très bon.
C'est votre fond de sauce.
Et puis, alors, le guitare seul là et acoustique, ouais, magnifique.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
C'est Thierry Lhermitte qui est notre invité ce matin. On va revenir à son actualité dans un instant. Mais avant, on va parler avec Mathieu Charrier, non pas de cinéma, mais de
surf.
BD. Aussi,
on peut, si vous voulez.
Non, vous avez Mathieu Charrier qui est surfeur et vous avez surfé sur les BD qui sortent en ce moment et vous démarrez par une histoire de super-héros, histoire un peu particulière, à moins que ce soit le super-héros qui soit particulier.
C'est exactement ça. Ça s'appelle Le Roi des Bourdons. C'est le titre d'une BD un peu animalière. Vous savez, c'est-à-dire que tous les personnages sont des animaux. Alors nous, on suit deux frères, Zola et François, qui découvrent au journal télévisé qu'un homme vient d'être sauvé par un super-héros à la mode. Il s'appelle Hyper Clébard, c'est évidemment un chien. Zola, il est un peu jaloux de lui, d'autant qu'Hyper Clébard, il est devenu le héros d'une série de bandes dessinées dans une maison d'édition où justement Zola a un petit job. Lui, il rêve de devenir auteur. Lorsqu'un jour, alors écoutez bien parce que c'est bruche-mu, il défriche le jardin de la maison de sa maman, il sauve un bourdon de la noyade et pour le remercier, ce bourdon lui propose, avec tous ses autres copains bourdons donc, de former comme une cape autour de Zola et de le faire voler. C'est réussi, le voilà donc devenu lui aussi super-héros, nouveau concurrent entre guillemets d'Hyper Clébard. Et Zola va en plus pouvoir raconter le roi des bourdons.
Il n'y a pas que les surfeurs qui fument des trucs.
Franchement, il va pouvoir raconter son histoire en BD. La boucle est bouclée. Voilà, c'est un peu loufoque, je vous l'accorde.
Ouais, un peu.
Mais c'est aussi et surtout, et c'est ça qui est drôle, l'occasion d'une belle satire du milieu de la bande dessinée et des éditeurs. Écoutez David de Thuin, l'auteur.
Mais en fait, c'est pas une critique. Je n'ai rien inventé. C'est juste ce qui se passe, ce que moi j'ai vu, ce que j'ai vécu. C'est vrai qu'à l'époque, chez Dupuis, il y avait une équipe commerciale assez, je dirais, incisive, qui cherchait l'efficacité, qui vendait des livres comme s'ils vendaient, du shampoing. Pas beaucoup d'humanité et beaucoup de cynisme, oui, c'est ce que j'en retiendrai.
David de Thuin, il a d'abord auto-édité cette bande dessinée, hein, tout seul avec ses petits moyens, c'était il y a 15 ans, avant d'être publié enfin dans une grande maison d'édition qui s'appelle Glénat. C'est fandard, c'est en sélection prochain festival Angoulême qui se passe à la fin du mois. Le Roi des Bourdons.
Et le graphisme, ça fait un peu penser à Lewis Trondheim. Franchement, il y a pire comme référence. Deuxième choix, Mathieu, une fable écolo.
Oui, Écolila, c'est le titre. Éco, vous aurez reconnu évidemment le diminutif. Et Lila, en fait, c'est le prénom de la fille de ce papa, l'auteur de la bande dessinée, qui se met en scène le temps d'un après-midi à Mexico, en compagnie donc de sa fille. Elle a une dizaine d'années, il la voit très peu. Il s'extirpe d'abord d'un taxi, puis ils entament une longue déambulation dans un parc, observant les arbres, décryptant toutes les silhouettes et ombres qu'ils croisent, s'amusant aussi à sauter dans les flaques d'eau. Et puis surtout, au travers de tous ces gestes, notre papa tente d'éveiller la fibre écolo logique de sa fille. Il y a le sous-titre, un fable écologique à l'usage de l'amour d'un père pour sa fille. Je trouve ça très beau. Il lui fait prendre conscience de l'état actuel de notre monde, des solutions aussi qui existent. Donc c'est un roman graphique qui est très touffu, comme vous pouvez le voir. 240 pages. C'est magnifique, c'est décadré. Vous savez, c'est ces BD où il n'y a pas des dessins dans les cases, dans le gaufrier classique, comme on dit. Là, ça, les cases, elles s'élargissent, elles se rétrécissent, elles disparaissent. C'est donc un récit imaginé par François Hollislager.
Le livre, je l'ai fait pour ma fille, parce que je la vois très peu et je voulais quand même lui donner quelque chose. Ça renvoie à sa propre enfance. Ça m'a renvoyé, moi, au moment où j'étais dans les champs, dans la ferme, où le lien avec la nature est tout à fait poreux, évident, direct. Et je voyais que ma fille, Lila, voulait rentrer dans la cage avec les loups. Elle cueillait des fleurs, qu'elle se demandait vraiment pourquoi les arbres étaient en prison. J'ai commencé à noter un peu ces petites phrases en la dessinant aussi. C'est la base du livre.
Voilà, Écolila en noir et blanc, hein, pour la majorité du récit. Puis à la fin, il y a quelques pages qui retrouvent un peu de couleur. Ce qui est positif, voilà, c'est que c'est un livre qui esquisse quelques solutions et c'est publié donc chez Actes Sud.
Et puis pour finir, on part en balade avec un reporter radio.
Bah oui, on était obligé. Alors il s'appelle Michel, notre reporter. Il est dégarni, un brin rondouillard, il est pigiste, et il galère pas mal, mais il persiste.
Il n'est pas dégarni,
pas du tout.
Je suis dégarni.
Non, elle s'appelle Louise Bernard, notre reporter. Elle s'appelle Louise Bernard. Elle n'est absolument pas dégarnie. Elle n'est absolument pas rondouillarde.
C'est vous qui le dites.
Bah non, je plaisante. Voilà.
Le reportage radio, c'est vraiment sa passion. Michel, il veut en vivre ou même en survivre, puisqu'il faut bien le dire, il ne gagne pas grand-chose, mais l'essentiel est ailleurs. Alors, on le suit au cours de petites histoires dans ce tome 2 qui s'appelle Michel, fils des âges farouches. On le suit à la rencontre notamment de Serge, exactement, Serge l'ornithologue, de Mario, l'ancien terroriste dans l'Italie des années 70, et qui s'adoucit, Mario, parce qu'il va devenir grand-père. Ça change un homme. Michel, qui est obligé, c'est assez drôle, de se déplacer en yes-bus, vous savez, les cars Macron, pour couvrir les manifestations de cheminots, évidemment. On est dans l'actualité, alors que la BD elle a été écrite, évidemment, il y a une petite année, et toujours en trame de fond, ses vieux parents dont il doit s'occuper et qui pourtant l'énerve au possible. On a tous connu ça. Voilà, il y a aussi la recherche désespérée de l'âme sœur. C'est un gentil loser, moi je l'adore. Et à travers son quotidien, Pierre Morel nous raconte aussi quelques travers de notre société.
L'idée, c'était de prendre un personnage qui fait de la radio, qui parvient pas à vivre de son métier, mais qui a besoin de faire des jobs à côté pour manger. Et c'était un peu pour parler de ce que je vivais en faisant de la bande dessinée, mais sans parler frontalement de la bande dessinée. Si vous voulez, dans chaque album, il y a un petit fil rouge. Et du coup, au travers de ces fils rouges, je le fais intervenir dans des petites scénettes en écho avec ce qui se passe aujourd'hui, quoi. De toutes ces applis qu'il faut pour tout, et de l'espèce de déshumanisation des services, ce qui rend la vie plus compliquée que ça ne la simplifie finalement.
Voilà, c'est de la BD alternative, publiée dans une petite maison d'édition qui s'appelle L'Employé du Mois, mais c'est souvent comme ça qu'on découvre de belles surprises. Ouais. Michel, fils des âges farouches, et donc je le redis, ces trois BD sont en sélection officielle à Angoulême, donc elles concourent pour le titre de meilleur album, mais ça sera la fin du mois.
L'Employé du Mois, quel nom magnifique.
C'est joli, hein.
C'est absolument magnifique. Vous êtes fan de BD, Thierry Lhermitte ?
J'aime bien, j'en lis moins maintenant qu'avant, mais j'en ai lu
il les a tous feuilletés, faut dire à nos auditeurs.
Et là, si vous avez une préférence à faire dans le...
Michel.
Ah, hein, Michel, fils des âges farouches.
Oui. Hein. Ben, ça, c'est le, effectivement le nom de l'édition et puis ouais, le thème. Ouais.
Faites attention parce que l'éditeur va mettre un petit sticker le choix de Thierry Lhermitte sur la devanture, vous allez voir.
Dites-en une alors que vous avez détesté. Ouais. Non, je plaisante, vous restez avec nous, Thierry Lhermitte. Ouais.
La dernière partie de Culture Média, c'est dans un instant avec notre invité Thierry Lhermitte sur Europe 1.
9h, 11h, Europe 1 Culture Média, Philippe Bondel.
C'est la dernière partie de Culture Média, toujours avec nous Mathieu Charrier et Angèle Châtelier. Évidemment, notre invité Thierry Lhermitte qui vient nous parler de sa pièce Fleur de Soleil. Peut-on tout pardonner ? Un seul en scène où Thierry Lhermitte donne vie à tous les personnages de cette incroyable histoire, où Simon Wiesenthal se demande est-ce qu'on peut pardonner l'impardonnable après avoir écouté la confession de Karl, un soldat nazi. Pièce qui se jouera au Théâtre Antoine du 16 janvier au 29 mars.
On est le 9 janvier, on peut dire qu'on est le début d'année. On prend souvent des bonnes résolutions de début d'année. Et Thierry Lhermitte, vous étiez promis de ne jamais monter seul sur scène. Ah et oui. Vous êtes seul sur scène.
Oui, je ne sais pas pourquoi. Voilà. Non, quand on m'a proposé ça, j'ai dit non, mais ça ne va pas.
Non, mais pourquoi et... d'abord, pourquoi vous étiez promis de jamais monter seul sur scène?
Parce que j'aime bien le groupe, j'aime bien faire des trucs ensemble. L'angoisse d'être seul, avoir la responsabilité, Enfin bon, voilà.
Bon. Voilà. Et alors, comment c'est d'être tout seul sur scène? C'est éprouvant. La pièce dure combien de temps?
Ça dure une heure.
Ouais.
Je l'ai joué déjà 7 fois, là. C'est prenant, on va dire. Voilà, on n'a pas le temps de penser à autre chose pendant une heure. Et c'est assez intense, on est content de l'avoir fait. Et puis quand j'en sors, je me dis, ah putain, il faut recommencer demain.
Voilà. Comment vous avez travaillé ce rôle? Simon Wiesenthal n'est pas mort il y a si longtemps que ça. Ouais. Vous l'aviez déjà croisé ou jamais?
Non, j'avais jamais croisé Simon Wiesenthal.
Est-ce que vous avez regardé des films, des vidéos de
lui? J'en avais pas regardé, j'ai regardé récemment justement ce qu'il racontait. Et non, mais il n'y a surtout pas d'imitation d'aucune sorte. On commence en disant je m'appelle Simon Wiesenthal, je suis né le 31 décembre 1908 à Boutchatch en Ukraine, je suis mort le 20 septembre 2005 à Vienne en Autriche. Donc c'est au début Wiesenthal qui parle de l'au-delà.
Ouais.
Okay. Puis ensuite ça devient Wiesenthal qui vit la situation
dans le camp.
Et puis, il y a le SS, Karl, le SS, qui meurt. Donc, ces trois plans de narration, c'est ça qui est difficile à faire, de passer de l'un à l'autre. En même temps, tout ça est raconté par Wiesenthal aujourd'hui. Donc, voilà la difficulté du travail. Quoi.
On vous a vu à l'affiche d'un film comique avec Michel Larocque, c'était Joyeuse Retraite, c'était fin novembre. Mais il y a quand même une inflexion dans votre carrière, ou est-ce que je me trompe? Depuis quelques temps, vous êtes tourné vers des textes plus engagés, notamment au théâtre, inconnu à cette adresse. C'est le parcours naturel d'un comédien comique?
Peut-être, j'en sais rien. C'est les circonstances, on va dire.
C'est un choix, c'est ma question.
Non, c'est pas un choix d'infléchir une carrière. Moi, s'il y a des trucs marrants à faire, j'ai fait. Mais comme j'en ai déjà fait beaucoup, et que moi, le fait qu'on me propose quelque chose que j'ai déjà fait ne m'amuse plus, du coup, j'ai peut-être plus d'intérêt pour les trucs que j'ai pas encore fait.
Je pense à Coluche pour Ciao Pantin, ou des gens comme Patrick Timsit, qui fait des rôles maintenant beaucoup plus durs, beaucoup plus profonds, et même dans un tout autre genre, Henri Salvador, qui voulait plus faire à la fin de sa vie les chansons drôles du début. Il voulait plus faire Zorro. Il voulait rigoler, mais il voulait plus faire les chansons rigolotes.
Non, mais c'est surtout parce que quand on l'a déjà fait, voilà, on vous propose quelque chose que vous disiez, j'ai déjà fait, ça va. Bon, je crois que c'est plutôt ça, plutôt qu'un goût. Si ça se trouve, j'avais fait que des trucs sérieux, je serais plus heureux de faire des trucs marrants aujourd'hui. J'en sais rien.
J'imagine. Et peut-être si vous avez fait des trucs qui marchent pas, vous auriez bien aimé faire un truc qui marche. Mais vous avez fait tellement de choses qui marchent que vous en foutez maintenant.
Peut-être.
Non, mais franchement, j'avais noté, mais quand même, quand on a fait Les Bronzés, Le Père Noël est une ordure, Les Ripoux, Le Dîner de cons, c'est bon, on peut passer à autre chose. Bon. Vous êtes le parrain de la FRM, Fondation pour la Recherche Médicale. Ouais. C'est pas un petit engagement de circonstance, une fois par an, avec des caméras. Ça fait 15 ans que vous y êtes.
Oui, je vais dans les laboratoires de recherche une fois par mois à peu près, et je vais en parler à France Inter, à droite, à gauche, pour faire connaître le travail des chercheurs que j'admire, qui sont indispensables à la science, qui sont indispensables au progrès qu'on peut faire dans les traitements, donc faire du bien à l'humanité. Ouais. Et puis pour chercher des sous, parce que le nerf de la guerre, évidemment, mais surtout le don privé, c'est un tiers du budget des chercheurs, il faut le dire. Il faut le répéter, ce n'est pas un petit plus, c'est essentiel au travail des chercheurs. Et le don privé, il arrive rapidement, ciblé, directement. C'est une autre fonction que les fonds d'État qui financent les structures.
Vous êtes très connecté. Vous pensez quoi, la défiance envers la science et par extension envers la médecine sur les réseaux sociaux?
C'est abominable. La parole de n'importe quel Pékin et vaut celle d'un prix Nobel. Alors moi, j'essaie de dire aux gens, mais qu'est-ce
sauf que
vous...
pardonnez-moi si je peux me permettre, sauf qu'il y a plus de Pékin que de prix Nobel.
Oui, absolument.
Puisqu'il est très rare qu'il y ait 1000 prix Nobel la même année.
Exactement. Et là, je dis, mais alors, qu'est-ce qui vous fait croire ça plutôt que ça? Qu'est-ce qui fait que vous êtes d'accord sur le changement climatique? C'est-à-dire, vous êtes d'accord que le GIEC fait changer, souligne l'impact de l'homme sur le changement climatique. Ça, c'est un consensus scientifique général. Il y a le même consensus scientifique général sur les vaccins. Mais alors, dans un cas, vous êtes d'accord et l'autre, vous n'êtes pas d'accord. Mais c'est quoi votre critère? Je dis non, s'il y a un consensus... La science, elle change. Voilà, la science, s'il y a une nouvelle vérité, la science s'adapte, on dit c'est une nouvelle vérité. Mais jusqu'à présent, c'est ça qui fait l'état des connaissances aujourd'hui. Oui, les vaccins apportent beaucoup, beaucoup plus de bien que de mal. Et l'homme est responsable du changement climatique, c'est l'état des connaissances aujourd'hui. Pourquoi on accepte l'un plutôt que l'autre? Parce que ça vous arrange. Je dis non, moi j'ai un peu de raison, quoi. Voilà ce que je dis.
Voilà. Si on veut faire des dons à la Fondation pour la Recherche Médicale,
c'est frm.org, ou un truc encore plus simple, si on veut donner 10 euros qui seront prélevés sur votre facture téléphonique, vous envoyez le SMS don, ça s'écrit D-O-N, au 92-300, et ça va à la FRM. Et 92-300 est néanmoins le code postal de Levallois-Perret. Mais ça ne va pas dans la cagnotte des Balkans.
C'est
bien de préciser.
J'étais en train de me dire, mais 92-300, c'est quel code postal? Vous m'avez sauvé la vie. Merci beaucoup, Thierry Lhermitte. Je rappelle, Fleur de Soleil, la pièce, enfin le texte tiré du livre de Simon Wiesenthal, c'est au théâtre Antoine à partir du 16 janvier avec vous en seul en scène. Merci beaucoup, Angèle. Salut David Bowie, salut aux surfeurs, salut Mathieu Charrier, salut Céline Dacosta. Nous, on se retrouve demain à 9h pour Culture Média. Nous serons avec Bérangère Krief. Bonne journée sur Europe 1.
C'était Philippe Vandel. Dans un instant, vous retrouverez Anne Roumanoff, toute sa bande et leurs invités. Aujourd'hui, Eliette Abécassi, Arnaud Gitoin et Gaëlle Gauthier sur Europe 1.